La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Notre mission au quotidien, vous montrer que des femmes et des hommes osent, les Français ont des idées, ils sont solidaires et construisent le monde de demain. À mes côtés en studio, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Alors aujourd'hui à la une, ce monde de la culture et de l'événementiel qui est en grande difficulté. Notre invitée, Mathilde Lorenzetti, c'est la vice-présidente de la plus grande salle de spectacle d'Europe. Je vous avais laissé 23 heures hier pour trouver la réponse. Si vous ne l'avez pas trouvé, ça s'appelle Paris La Défense. Mais cette salle est vide depuis le mois de mars. C'est là que se jouent également les matchs du Racing en rugby. Alors, comment, dans une telle situation, on essaye de se préparer à ce qui semble être, pour le moment, une quasi impossible reprise? Vous saurez tout d'ici à 14h.
À la une, en effet, aujourd'hui, Emmanuel, les salles de spectacle, mais aussi les musées. Comment se relèvent-ils après cet arrêt brutal et inédit? On ira au musée Grévin. Il a su traverser l'histoire depuis 1882. Rendez-vous à 13h30 avec son directeur général.
Alors, eux n'ont pas encore leur statut de cire, mais ils ont 1 minute 30 pour nous convaincre. Souvent, c'est la minute 30 la plus longue de leur histoire. Chaque jour, un entrepreneur ou une entrepreneur qui se lance vient tenter de vous convaincre, de convaincre notre grande patronne du jour. Soyez au rendez-vous, c'est à 13h40.
Demain, au travail, décryptage sur nos nouvelles façons de travailler. Comment s'organisent les entreprises dans ce monde en pleine transformation? On a trouvé pour vous aujourd'hui un boîtier pour respecter la distanciation sociale. Une entreprise des Yvelines l'utilise. On vous dira tout. Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Alors, laissez les portes ouvertes, porter le masque, avoir des fauteuils libres un peu partout. Comment respecter les gestes barrières dans une salle de spectacle?
Et on en parle avec vous, Mathilde Lorenzetti. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous jusqu'à 14h sur Europe 1. Vous êtes notre grand témoin du jour, vice-présidente de la salle Paris La Défense Arena. Avec 40 000 places, c'est la plus grande salle d'Europe. C'est là que Céline Dion devait venir au printemps. Votre famille a aussi le club de rugby du Racing qui joue dans cette salle fermée. Emmanuel le disait il y a un instant, la salle est fermée depuis le 7 mars.
Absolument.
Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. Comment allez-vous quand on dirige la plus grande salle d'Europe?
Écoutez, on a eu beaucoup de stress. Ça a été vraiment des moments compliqués. Et je pense que la difficulté qu'on a au quotidien, c'est cette incertitude face à l'avenir. C'est vrai qu'on avait grand espoir avant les grandes vacances de pouvoir ouvrir dans des conditions à minima qui nous permettraient d'avoir un équilibre économique. Cette jauge pour nous, elle est à 15 000 personnes, notamment avec la reprise du top 14.
Vous ne perdez pas d'argent si vous avez 15 000 spectateurs.
À 15 000
vous
spectateurs,
en gagnez pas, mais vous ne perdez pas d'argent.
Je suis à l'équilibre. Voilà, ça me permet effectivement déjà de satisfaire mes clients, mes spectateurs, mais aussi mes partenaires qui me soutiennent depuis plusieurs années, qui soutiennent le club depuis de nombreuses années également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie difficulté de pouvoir avoir des perspectives de viabilité économique dans notre secteur.
Ma question va peut-être vous étonner, mais comment on occupe son temps depuis le 7 mars, quand on est fermé, qu'on a une énorme partie de ses équipes en chômage partiel, et surtout qu'on n'a aucune idée de la date à laquelle une vraie tournée va pouvoir revenir, par exemple?
Écoutez, on a eu le premier gros travail qu'on a eu, c'est déjà l'annulation de la Nuit de la Bretagne, qui devait se dérouler le 7 mars. Et puis après, un travail de fourmi sur l'échelonnement du chômage partiel des équipes en fonction des dossiers à terminer. Et puis on a eu un énorme travail de report des concerts, puisqu'effectivement, comme vous l'aviez dit, nous avons Céline Dion, mais pas que. On avait également Paul McCartney le 26 mai. On avait également Iron Maiden et ensuite on avait Green Day en juin. Donc tous ces concerts-là ont dû être reportés. Ça, c'est les concerts officiels que tout le monde connaissait. Mais par ailleurs, on continue à travailler pour la programmation sur les 2-3 prochaines années.
Mais même comment on reprogramme des spectacles? Parce qu'il va déjà falloir remettre cela. Par exemple, Céline Dion, elle revient, logiquement.
Absolument.
Elle
en
fait
mars
une tournée européenne. Mais comment on fait pour trouver de nouvelles dates alors qu'il faut déjà faire revenir tous ceux qui s'étaient engagés à venir?
Bah écoutez, la priorité évidemment c'était ce sont les concerts qu'on a dû reprogrammer dont les billets ont déjà été vendus, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Mais par ailleurs, on est en contact régulier avec tous les producteurs et ceux qu'on avait programmés en 2021, ils ont basculé en 2022 et vice-versa. C'est-à-dire que on a eu un espèce de jeu de chaise musicale, pour finalement tout reporter d'un an. Et malheureusement, avec le positionnement actuel de notre gouvernement, on ne sait pas du tout quand cela va être possible. On avait un concert qu'on devait annoncer là, qui est en janvier. On est déjà en train de le déprogrammer.
Dites-le
je
nous.
Je ne peux pas vous dire.
Si, c'est le moment, jamais.
Je ne peux pas, mais...
Un artiste français, étranger.
Un artiste français qu'on va annoncer incessamment sous peu, mais on est déjà en train de le repousser. Donc c'est une véritable catastrophe pour notre activité.
Bah alors justement, parce que avec vous, le souci, c'est que là, vous venez de parler du gouvernement français. Les événements de plus de 5000 personnes sont interdits au moins jusqu'au 30 octobre. Aucune dérogation en zone rouge. Vous êtes en zone rouge. Vous avez pourtant bien avancé sur un projet de réouverture. Vous avez mis en place tout un processus pour pouvoir accueillir plus de personnes.
Absolument.
C'est quoi ce processus ?
Écoutez, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on attendait un soutien. On a un peu l'impression que la culture, aujourd'hui, est une activité secondaire qui n'est pas importante. On n'est pas du tout pris en considération. Alors même qu'on a quand même plus de 600 000 personnes qui travaillent dans le spectacle. Donc, fort de cela, avec des perspectives de rentrée, nous avons travaillé sur un dossier qu'on a déposé en préfecture dès juin.
Dès juin. Et il y a quoi dans ce dossier ? Alors comment vous essayez de leur démontrer que oui, c'est possible, vous pouvez faire rentrer dans votre salle plus de 5000 personnes en respectant les gestes barrières ?
Absolument.
Comment vous faites ?
Donc il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai une salle qui est moderne, qui a été construite il y a 3 ans. Donc on a déjà un processus de renouvellement d'air à 100% de 720 000 m3 d'air complètement renouvelé à 99%. Nous avons investi plus de 70 000 euros pour changer les filtres pour que ceux-ci soient plus performants. Nous avons mis aussi en place un processus de filtration dès la sortie du métro toute l'esplanade de la Défense et jusque dans la salle. Et dans la salle, on a créé en fait 6 salles.
Donc divisées en 6 parties.
Absolument. De 2000 à 3000 personnes. De telle sorte que c'est comme si en réalité la salle n'était pas une seule salle pouvant accueillir 30 000 personnes, mais 6 petites salles de 2500 personnes réparties dans la totalité de l'enceinte.
Vous le disiez tout à l'heure, moi je gagne de l'argent, en tout cas j'en perds pas si j'ai 15 000 personnes.
Absolument.
Soyons très clairs, si ça reste à 5 000, vous dites nous on n'ouvre pas ? On ne le fait pas parce qu'on ne saura pas faire malgré, par exemple, ces 6 petites salles que vous avez réussi à créer.
Si alors, c'est possible.
On réouvre parce qu'on a aussi des accords. C'est-à-dire qu'on a des partenaires, on a des clients qui louent des loges à l'année, des salons, etc. Donc, on a l'obligation maintenant de reprendre l'activité.
Oui, mais si vous avez rien à leur proposer.
La problématique, c'est qu'on espère...
Parce que c'est bien gentil d'avoir une loge, mais dans une salle vide de 40 000 personnes, c'est moyennement sympa, quoi.
Absolument. C'est pour ça qu'on tient le premier match de rugby qui va être le 11 septembre à l'Arena à 5 000, puisqu'on a l'obligation de le faire. J'invite les services de préfecture à venir pour constater, comme ils l'ont fait d'ailleurs à Michelin, alors je sais bien que c'est une zone verte, mais le stade Michelin pour le premier match de Clermont...
Et on est à Clermont-Ferrand.
Ils ont eu l'autorisation d'ouvrir à 10 000. Donc j'invite...
Mais là, on voit que par exemple, en zone rouge, votre grand concurrent en Ile-de-France, le stade français, eux, ils ne sont même pas capables de jouer puisqu'ils ont trop de joueurs atteints par le coronavirus. Donc je
absolument.
Pense que la préfecture... Même si vous faites tout, ils vont vous dire, vous êtes bien gentil, mais c'est peut-être un poil tendu.
Alors nous, on n'a pas de cas de corona. Déjà, on a un protocole très strict qui a été respecté depuis mars. On a un chef médical extrêmement pointilleux. On a eu un cas à Paris, la Défense Arena, qui a été tout de suite isolé. Et on n'a eu aucun autre cas. Tout le monde a été testé. Et aujourd'hui, on est extrêmement vigilant. Ensuite, dans notre salle, à la différence de plein d'autres salles, on a justement une capacité, comme vous le disiez, de 30 000 personnes. Et aujourd'hui, à 15 000, ça nous permet à ce qu'aucune personne soit à côté les uns des autres. Mmh. Avec ces 6 zones complètement hermétiques, qui ne pourront pas aller dans les autres parties de l'aréna que nous aurons isolées.
Ils ne vont pas se côtoyer.
Absolument. Il n'y aura personne devant, ni derrière, ni sur les côtés.
Il est 13h19 et vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Il est 13h21, la France bouge avec notre patronne du jour, Bathilde Lorenzetti. Vous restez avec nous, on a encore beaucoup de questions pour vous. Je rappelle, s'il faut encore le faire, que vous êtes la vice-présidente de la plus grande salle de spectacle d'Europe qui s'appelle Paris La Défense Arena. Alors vous l'avez compris depuis le début de cette émission, on parle culture aujourd'hui dans cette France bouge. Un secteur qui souffre bien évidemment de la crise liée à la fermeture des salles. Alors pour ne pas rester en manque de musique, on l'a compris, il y a peut-être des solutions, en manque de rugby aussi, mais en manque de théâtre aussi. Je sais qu'Elisabeth, vous adorez ça.
J'adore ça.
Et donc nos équipes ont trouvé, semble-t-il, une pépite qui s'appelle Opsis et qui nous propose de regarder des pièces en streaming.
Et tout ça, c'est grâce à vous, Sébastien Thézé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Opsis, O-P-S-I-S. Ça existe bien avant le confinement, hein, bien avant la crise, puisque ça a été fondé il y a 3 ans. Et vous, vous vous définissez comme le Netflix du théâtre vivant, moyennant un abonnement d'environ 6 euros, 5,99 euros. J'ai accès à toutes les pièces de théâtre, c'est bien ça ?
Exactement. En fait, il y a 3 ans, on a lancé donc Opsis TV, qui est une plateforme sur abonnement qui permet effectivement, en illimité, d'accéder à des centaines de captations de spectacles, du théâtre, de l'opéra et de la danse, alors de la comédie, du théâtre contemporain, du théâtre patrimonial en partenariat avec l'INA, des spectacles musicaux. L'idée, c'était de pouvoir donner à voir sur écran du théâtre filmé, qui est effectivement complémentaire à la salle.
Est-ce que l'une de vos difficultés, c'est pas d'avoir justement ces pièces de théâtre? Parce qu'on sait que la captation, comme on dit dans ce milieu, coûte très cher. Toutes les salles de spectacle et de théâtre, notamment privées, n'ont pas les moyens de le faire. Comment vous arrivez à avoir ces spectacles sur votre site, hein?
Alors déjà, l'idée, en fait, c'était de fédérer un petit peu toutes les captations de spectacles qui ont pu avoir lieu ces dernières années, et même des captations des années 50, 60, 70 avec l'INA. Donc en fait, il y a un vivier très important de captations qui sont faites chaque année avec des producteurs de spectacles vivants et de captations. Et l'idée, c'était effectivement déjà d'agréger ces contenus. Après, chaque année, nous captons nous-mêmes un certain nombre de spectacles pour être effectivement autonomes sur ce dispositif. Mais on travaille avec toute la filière, les producteurs, les distributeurs audiovisuels aujourd'hui, pour capter et donner à voir finalement à tout un chacun ces captations de spectacles.
Mais comment ça se passe, les contrats? Ce sont des théâtres qui vous contactent, vous allez vers eux, vous demandez des autorisations. Comment alors, vous organisez pour arriver à obtenir tout ça?
C'est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons la démarche effectivement d'aller vers les producteurs de spectacles et nous leur proposons de capter effectivement leur spectacle.
Donc alors, c'est le producteur, c'est pas la salle?
Non, on passe toujours par les producteurs de spectacles, et à partir du moment où le producteur du spectacle a l'envie de travailler avec nous, on se rapproche bien sûr du théâtre et des équipe artistique pour travailler ensemble sur la réalisation d'une captation.
Alors moi, je vous ai découvert quand on a préparé cette interview hier avec Elisabeth, mais comment s'est passée la période du confinement? Est-ce que ça a été l'occasion d'un gros coup de boost? Pardonnez-moi ce mot très moche.
Tout à fait. C'est vrai que 3 jours après en fait, le confinement, nos abonnements en fait, ont complètement explosé, puisqu'on a multiplié par 4 notre base abonnée et des abonnés qui restent aujourd'hui. Donc c'était vraiment très intéressant de voir que la plateforme Opsis TV permet finalement de combler un manque et d'assurer finalement une forme de continuité dans l'envie d'aller voir du spectacle. Alors c'est pas la même chose. Nous, on est vraiment complémentaires à la salle, on insiste vraiment là-dessus. Mais effectivement, aujourd'hui, nos abonnés, en tout cas, ont fortement augmenté.
De combien ?
Alors, multiplié par 4, donc aujourd'hui on a plusieurs milliers en tout cas d'abonnés, mais qui sont restés finalement depuis le 17 mars pour la grande partie d'entre eux.
Donc vous avez pu récupérer de nouveaux clients. On passe comment pour s'abonner? On passe par la box de la maison ou...
Alors tout simplement, la plateforme est accessible donc sur internet, sur le site opsistv.com. Comme Netflix, on s'abonne en fait directement sur internet. On peut voir les programmes sur un ordinateur, une tablette, des téléphones, et on discute actuellement avec l'ensemble des opérateurs, des fournisseurs d'accès internet pour que Opsis TV soit disponible chez Orange, Bouygues Télécom, Free.
Si vous écoutent, ils peuvent vous passer un petit coup de fil, mais qu'ils attendent un peu parce que vous êtes encore avec nous dans La France Bouge en direct. Qu'est-ce qui a le mieux marché pendant ce confinement? Qu'est-ce qu'on a le plus regardé sur votre plateforme?
Alors c'est vrai qu'au niveau de la consommation, finalement, elle est à peu près la même que tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on a des comédies qui fonctionnent très bien, mais les spectacles en théâtre patrimonial fonctionnent également. On a tous les amateurs de théâtre qui retrouvent du théâtre contemporain, et ça, effectivement, ça fonctionne bien, y compris des spectacles qui se jouent encore en ce moment à l'affiche.
Et donc, surtout, c'est ça en plus qui peut être intéressant, parce qu'on ne peut pas y aller.
C'est tout l'intérêt. On a un spectacle, par exemple, en ce moment, qu'on a capté il y a quelques mois, qui est en ce moment au Théâtre du Lucernaire à Paris.
Qui est un de vos premiers partenaires, c'est
exactement,
ça?
Exactement, hein, effectivement, le Théâtre du Lucernaire est un de nos premiers partenaires. Et donc on peut voir des spectacles qui se jouent actuellement et qui sont encore à l'affiche pendant plusieurs semaines.
Bathilde Lorenzetti, vous êtes notre grand témoin du jour, hein. Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Des pièces de théâtre en streaming pour retrouver finalement ce petit brin d'ambiance, hein, qu'on aime tant quand on va dans la salle.
Mais ça marche bien, moi j'ai regardé, j'ai trouvé ça pas mal, hein.
Ça vous a donné envie. Quand on assiste au spectacle, vous aussi, est-ce que dans votre salle Paris Arena La Défense, vous avez pensé à faire venir les artistes? On maintient le spectacle, mais vous filmez la captation même sans personne dans la salle. Est-ce que c'est envisageable?
Pour être complètement honnête, on est déjà en train de travailler sur des projets de cet ordre-là depuis avant les vacances, justement avec cette incertitude de jauge. Donc c'est des choses sur lesquelles on est obligé. Ils le font déjà aux États-Unis. En réalité, il y a un logiciel qui a été créé là-dessus.
Et comme pour les matchs de foot, vous rajoutez l'ambiance et les hurlements à côté.
Ben, je l'ai vu d'ailleurs.
Ah non, il n'y a plus de briquet.
Je l'ai vu pour la Champions League. J'ai trouvé ça plutôt pas mal fait.
Et quand vous dites vous y réfléchissez de façon très très concrète, sortir dans les semaines à venir.
Ouais. On travaille vraiment là-dessus, puisque effectivement, on a un problème.
Vous avez des artistes qui vous ont dit
Absolument, on vient.
Votre fameux français du début du mois de janvier, là, il est d'accord.
C'est encore un autre.
C'est un autre.
Ils sont d'accord parce que cette chaleur des spectateurs, ils en ont besoin aussi, les artistes, pour donner le maximum.
En fait, j'ai la chance d'avoir dans cette salle, un écran géant. Et l'idée, ce serait qu'on puisse projeter avec des e-caméras les visages des spectateurs pour que l'artiste, on montrait la scène face à cet écran géant et l'artiste pourrait voir en réalité ses spectateurs.
Multiplié par 5.
On pourrait tourner, voilà. Alors, on pourrait avoir cette jauge de 5000, évidemment, qui est autorisée.
Ah oui, il y aurait quand même un peu de bruit dans la salle, du coup.
Voilà. Et en face, effectivement, un écran de spectateurs.
Qui reflète les mêmes.
Les gens qui regardaient.
On verrait votre vraie tête, Elisabeth. Vous verrait avec votre briquet à la maison. Merci en tout cas, Sébastien Thézé. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Opsis, une plateforme de streaming de théâtre vivant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et avec Elisabeth, on est effectivement très heureux de vous accueillir chaque jour à la mi-journée sur Europe 1 entre 13h et 14h pour cette France Bouge. Notre invitée aujourd'hui sur le monde de la culture, Bathilde Lorenzetti, vice-présidente de Paris La Défense Arena. On va le redire quand même encore une fois, puisque pour une fois qu'on est premier en quelque chose, première salle fermée d'Europe. Alors justement, on parlait tout à l'heure des chanteurs, on a parlé du rugby, mais vous avez une énorme activité aussi sur les congrès, sur les séminaires d'entreprise et ce genre de choses. Là, a priori, logiquement, on a à peu près le droit de reprendre. Est-ce que vous, les clients que vous aviez, les contrats que vous avez signés, maintiennent leurs engagements ?
Oui, à ce jour, on a eu quelques reports, effectivement, de la fin du dernier trimestre, mais aujourd'hui, on est bien sûr en dessous de ce chiffre de 5000 personnes. Donc, heureusement, ces activités ont été maintenues.
Mais vous maintenez ces activités, donc vous maintenez aussi vos salariés ?
Alors, ça a été un vrai sujet, c'est-à-dire qu'avec les perspectives qu'on avait potentiellement en juillet, on a 80% de la société qui a été réactivée. Mais malheureusement, compte tenu des annonces dernières, dans quelques semaines, je vais avoir le premier match du Racing. Et j'ai également le premier match de boxe qu'on va pouvoir réaliser à l'Arena le 25 septembre avec Tony Oka. Et malheureusement, après cet événement, je vais remettre 50% de mon effectif en chômage partiel.
De façon concrète, votre secteur est aidé jusqu'à la fin du mois de décembre. Vous êtes le seul secteur avec l'hôtellerie, la restauration,
Absolument.
Le tourisme et l'événementiel au sens large à avoir des mesures de chômage partiel jusqu'à fin décembre. Ça vous suffit ou vous vous dites vous êtes bien gentil, mais moi, le 1er janvier 2021, j'aurai la gueule de bois, pas uniquement parce que potentiellement, j'aurais bu sans modération.
Absolument. Heureusement, on a bénéficié d'un prêt, mais qu'il faudra un jour ou l'autre rembourser. Et il nous faut de la trésorerie, il nous faut réaugmenter notre chiffre d'affaires. On a perdu 20 millions sur notre chiffre d'affaires prévisionnel avant les vacances.
Vous avez perdu 20 millions d'euros ?
Absolument, 20 millions d'euros
sur
le chiffre d'affaires prévisionnel qu'on devait passer, parce que c'est des grosses pattes pour nous de concert en ce moment. Déjà à la fin de le deuxième trimestre, et là, à la fin de l'année, c'est des grosses pattes d'événements.
Parce que ceux qui ne le sauraient pas, cette salle, c'est un véritable projet entrepreneurial. C'est
Absolument.
Votre père qui avait décidé de la créer un peu contre vents et marées et un peu contre tout le monde. C'est
Absolument.
Votre famille qui avait engagé tous les investissements. Vous
oui.
êtes le seul propriétaire de cette salle. J'imagine que votre business plan avait bien évidemment pas prévu le Covid. Est-ce que là, du coup, à un moment, vous vous dites, on pourrait tout abandonner si ça ne repart pas ?
Écoutez, on soutient le projet. C'est effectivement le projet mené par mon père depuis plus de 10 ans. On a d'autres activités par ailleurs. On fait notamment du vin, de l'immobilier. Mais effectivement, on ne pourra pas soutenir éternellement l'activité de Paris La Défense Arena. Et c'est bien dommage, puisqu'on offre des spectacles. Et puis on...
Hey, là, ce que vous nous dites, c'est que la pérennité même de l'entreprise est
absolument.
En ce moment même où
Sur
on se parle en danger.
Absolument. Ouais. Bon,
mais
on ne pourra pas supporter d'être en déficit comme ça, puisque vous imaginez bien qu'on a ouvert la salle il n'y a pas longtemps. On
en
a
2017.
Fait des lourds investissements. C'est encore un projet purement privé. Personne ne nous a aidés. On n'a eu aucun soutien. Donc aujourd'hui, c'est effectivement notre famille qui, via les autres filiales qui peuvent un peu mieux marcher, peut soutenir, mais on ne pourra pas le faire éternellement.
En espérant que votre projet, qui a l'air tout à fait viable, puisse voir le jour, de pouvoir accueillir des spectateurs. Vous n'êtes pas une salle de théâtre, vous l'avez dit, donc ce sera peut-être envisageable.
Alors nous, on voit quand même le verre à moitié plein à chaque fois dans cette émission. On voit que c'est compliqué, mais on voit surtout, et c'est ça à retenir, que vous avez plein d'idées pour essayer de vous en sortir. Alors c'est vrai pour votre salle, c'est vrai pour typiquement la solution qu'on a trouvée tout à l'heure pour voir les pièces de théâtre, mais c'est vrai aussi pour les musées. Alors c'est dur pour vous, c'est dur pour certains, mais ça fonctionne quand même encore un peu.
Mais oui, ça fonctionne un peu au musée Grévin. Bonjour Yves Delhomo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le directeur général du musée Grévin. La vie des musées, on le sait, hein, c'est compliqué depuis de longs mois. Par exemple, au musée Grévin, c'est le cas. Parce que avant le Covid, vous avez eu les grèves aussi, vous.
Alors avant le Covid, on avait eu les grèves et ça avait été dramatique sur le mois de décembre. Et puis on avait eu avant encore les gilets jaunes avec des violences sur les grands boulevards. Et parfois, il a fallu fermer ses portes en catastrophe.
Alors que c'est un musée qui, depuis 1882, date de sa naissance, n'avait jamais fermé. Hein, seulement une demi-journée, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale et une journée pendant les attentats de 2015.
Alors... Musée Grévin, alors c'était une légende urbaine, n'a jamais fermé. Alors je suis allé quand même retourner dans les archives et j'ai trouvé quelques jours de fermeture en 1914, néanmoins,
ouais,
avec une
loin.
Fermeture à mi-temps quand les Allemands se sont rapprochés de Paris. Mais c'est un musée qui a jamais fermé, qui a toujours surmonté la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre.
Alors comment vous allez surmonter là ? Déjà, comment vous avez fait pendant ces deux mois où il a fallu tout stopper ?
Alors tout stopper, ça veut dire l'ensemble du personnel en activité partielle, en chômage partiel. Ensuite, c'est savoir ce qu'allait se passer et surtout rembourser les clients et puis leur proposer de revenir visiter. Donc, c'est mettre en place tout un système qui permet de rester en contact avec les clients. Et il a été décidé ensuite de réouvrir le 18 juin. Et on savait qu'au départ, ça serait difficile de réouvrir, qu'il faudrait un certain temps pour retrouver une fréquentation acceptable.
Le musée Grévin, c'est une institution de Paris, mais c'est quand même principalement les touristes étrangers qui vous servent en tout cas à vivre tout le long de l'année. Les chiffres du comité régional du tourisme sont sortis il y a quelques jours pour l'Île-de-France. Moins 70% pour Versailles, moins 60 et quelques pourcents pour le Louvre. C'est vide aussi chez vous ?
Alors, pendant l'été, on a eu la chance de faire que moins 50%, parce qu'on a une clientèle de province qui est qui aime beaucoup ce site. Et puis, notre première clientèle étrangère, c'était les Belges.
Et après, sont un peu venus.
Les Allemands, qui eux sont un peu venus. Puis d'un seul coup, avec Paris en zone rouge, ça s'est arrêté d'un seul coup, aussi bien pour les Belges, les Allemands. Et la troisième clientèle, c'était les Suisses. Et cela, on avait réussi à les préserver.
Alors vous l'avez dit, vous avez toujours su vous relever malgré les crises, malgré les années. Là, on vous entend, vous semblez optimiste. Hein, ça a l'air d'aller.
Heureusement, c'est le but de la France
et
bouge.
Et c'est le but de la France bouge.
On va pas pleurer. Hein.
Comment vous vous êtes organisé depuis la réouverture ? Vous rassurez comment les visiteurs ? Vous espacez les entrées ? Comment vous faites ? Pour donner envie aux personnes de revenir dans votre musée.
Alors, on a une qualité de visite beaucoup plus agréable.
Malheureusement, c'est moins la cohue.
C'est pas la cohue, mais il faut qu'on régule le flux. Donc, quelquefois, on a eu cet été la queue jusqu'au métro pour effectivement réguler le flux intérieur et être sûr que les gens puissent respecter la distance nécessaire. Il faut porter le masque, mais on a des tas de personnages sur le parcours qui n'ont pas de masque. Hein, et toutes les célébrités, c'est là qu'on peut les voir sans masque. Et puis, du gel hydroalcoolique, on a dû arrêter notre spectacle et le Palais des Mirages. À un moment, on est enfermé dans une pièce et on vit un spectacle qui existe depuis 1900 à cet endroit-là pour rendre le parcours le plus fluide possible. Et puis, certaines stars ont dû être un peu bougées pour ne pas créer d'accumulation.
Ah oui
par exemple, autour de Mbappé, il faut beaucoup de place.
Vous les avez retirés ?
Il faut de la plus... Non, on ne les a surtout pas retirés. Mais
on les a mis dans un endroit où on peut être plus nombreux.
Voilà.
C'est génial, ça.
On peut être sûr qu'on puisse faire la photo avec eux.
Alors, par chance, vous appartenez vous aussi à un grand groupe qui s'appelle la Compagnie des Alpes, qui est le leader mondial des pistes de ski. Là encore, on a un numéro 1 en France, salons-le. Oui. Grâce à ça, ça vous permet de continuer à investir. Parce qu'un musée comme le vôtre, si on ne fait rien, on peut dans tous les cas fermer. Il faut créer de nouveaux personnages, il faut faire tout ça.
Oui, et la Compagnie des Alpes, et d'appartenir à cette compagnie est une aide considérable parce que c'est aussi une filiale de la Caisse des dépôts qui permet d'avoir les emprunts nécessaires et qui permet de sauvegarder les investissements qui feront vraiment le visiteur de demain. Et stopper les investissements et l'entretien, ça serait dramatique. On doit prévoir l'avenir.
Donc quand vous dites qu'on doit prévoir l'avenir, des nouvelles statues en prévision, vous avez eu le temps de travailler dessus là pendant ces derniers mois.
Oui, il y en a deux qui auraient dû avancer beaucoup plus vite. C'est Antoine Griezmann. Mmh. On l'a déjà rencontré à Barcelone. Au Barça, on avait commencé à faire sa sculpture. Ça a été stoppé net. Et puis le deuxième, parce qu'on nous le réclame, et c'est la troisième fois qu'on va le faire, c'est Zinedine Zidane.
Ça, vous le faites vieillir au fur et à mesure, c'est
on
ça
On le fait vieillir au fur et à mesure.
Oh, c'est génial.
Et là, on va le refaire entièrement. On avait rendez-vous avec lui au Real Madrid. On est arrivé devant la porte. Ils ont été confinés 10 minutes avant qu'on puisse rentrer au Real Madrid. On a dû faire demi-tour et revenir en France.
Et des personnages forts de la crise ?
Le fameux chanteur qui vient au mois de janvier, là, du côté de la Paris La Défense Arena. Vous n'êtes pas en train de le faire parce qu'on n'a toujours pas eu le nom. Peut-être qu'on vous l'a donné pour le préparer en cire.
Alors, vous essayez. Hein.
Non.
Il y a des personnages.
Les prochains. Deux personnages vont être inaugurés qui vont être Muriel Robin et Pierre Palmade au mois d'octobre. Et ensuite, c'est Cyril Lignac qu'on a beaucoup vu d'ailleurs pendant cette période du Covid.
Eh bien, en tout cas, un grand merci Yves Delemot. Je rappelle que vous êtes le directeur général du musée Grévin, d'être venu nous raconter la saga de ce musée, puisque chaque jour, hein, sur La France Bouge et sur Europe 1, on essaye de vous parler du présent et puis de revenir sur ces marques, sur ces entreprises, sur ces personnages, justement, et comme vous le dites si bien, Elisabeth, sur toutes ces pépites. 13h41 sur Europe 1.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on est toujours avec Bathilde Lorenzetti, hein, qui est notre patronne du jour, vice-présidente de Paris La Défense Arena. On continue de voir avec vous comment ça se passe, mais c'est un moment que tout le monde attend de cette émission. Nos entrepreneurs, nos jeunes entrepreneurs, nos jeunes entrepreneuses, aujourd'hui c'est un garçon, qui viennent pitcher devant
comme
nous,
on
Elisabeth.
Dit, hein, c'est ça dans le jargon. 1 minute 30 pour vous convaincre dans La France Bouge. Comme avec vous, Arthur Presse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le co-auteur de Ras-le-bol, R-A-L-B-O-L. C'est le titre de votre livre. Hein. Ras-le-bol, kit de survie pour étudiants. Vous dites que vous avez écrit la Bible pour les étudiants. Un livre écrit par des étudiants, pour des étudiants. Vous êtes vous-même étudiant à l'école centrale de Lyon. Alors vous allez nous dire pourquoi ce livre, parce que j'ai l'impression qu'il y en a des tonnes, des livres pour étudiants. C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Bah, merci de me recevoir ici. Donc Ras-le-bol, c'est le livre que j'ai écrit ces 9 derniers mois avec un ami de l'école centrale pour aider les étudiants à lutter contre la paperasse administrative. Donc en fait, on est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, chaque année, 600 000 nouveaux étudiants commencent leurs études et sont confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes démarches administratives. Et ont des difficultés à comprendre ce que sont les APL, ce que sont les bourses, les mutuelles santé, etc. Et bien souvent, leurs parents ne sont pas toujours là pour les aider. C'est pourquoi on a décidé, en écrivant Ras-le-bol, de rassembler en un seul et même livre des méthodes et des explications tirées de nos propres expériences de vieux étudiants, mais aussi de solutions de professionnels qu'on a interrogés tout au long de l'écriture.
Votre expérience.
C'est ça. Et donc, on en a fait un véritable kit de survie de l'étudiant. Donc, on parle d'administratif, un sujet rude, mais pas que. On parle aussi de CV, de trouver un stage, on parle de job d'été pour en faire un manuel complet. Et donc, c'est un livre écrit par des étudiants pour des étudiants. Et selon nous, c'est le cadeau idéal pour un étudiant en cette rentrée. Il est disponible sur ulule.com.
Merci, hein, merci à vous Arthur pour nous avoir présenté Ras-le-bol. Hein. Donc cette campagne Ulule, hein, faut le préciser, elle a commencé le 3 août, elle va se terminer le 11 septembre. Elle a bien démarré
ça. Elle a très bien démarré, on est à plus de 600 ventes aujourd'hui.
À 17€, c'est bien. Hein.
Et on est très content.
Alors je me tourne tout de suite vers notre grande patronne du jour, Bathilde Lorenzetti, vice-présidente de Paris La Défense Arena. Qu'est-ce que ça vous inspire, un jeune étudiant comme ça, il est à l'école centrale de Lyon et il se dit tiens je vais écrire un livre pour les étudiants.
Bah écoutez, déjà c'est positif, hein, ça veut dire qu'on a des Merci. Jeunes intellectuels qui mettent en place des choses, qui sont inventifs, qui n'attendent pas, qui ne sont pas dans le mobilisme. Moi, je trouve ça formidable. Et puis, j'ai été étudiante aussi.
J'ai été
beaucoup dans des bureaux administratifs, bureaux 504, etc. donc, je sais ce que c'est. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin de petits conseils. Et puis, de temps en temps, c'est bien d'avoir un livre et de ne pas avoir tout sur Internet.
Ce qui est marrant dans votre livre, là, quand on l'a regardé avec Elisabeth, c'est que là, vous vendez très bien le côté APL et tout. Mais ce qui est aussi très rigolo, c'est que j'ai appris comment ouvrir une bière quand j'ai pas de tire-bouchon, par exemple, ou de décapsuleur. C'est que c'est véritablement au-delà des APL. Alors, des fois, quand on les a pas, on a besoin d'une bonne bière, mais avec modération, bien évidemment.
Toujours.
Mais c'est ça. C'est aussi tout ça. C'est la vraie vie étudiante de sortie, les bons plans, etc., etc.
Exactement. On a voulu en faire un livre qui ne soit pas trop rude, parce que l'administratif, c'est un sujet rude. Et donc, on a voulu allier ça à l'humour, à d'autres sujets plus légers. Et on l'a fait illustrer par des étudiantes pour en faire un manuel complet.
Et pourquoi vous avez fait un livre, on est dans l'ère du numérique? Pourquoi vous n'avez vous êtes pas dit je vais monter un blog pour donner tous mes bons plans en tant qu'étudiant?
En effet, c'est ce que tout le monde nous dit. Et on a voulu avoir un objet stable et durable ce qui manque parfois avec liste internet où on ne sait plus où trouver l'information.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un écueil, parce que quand on voit la polémique qu'il y a pu y avoir sur les APL quand on a supprimé le 5 euros, 17 euros quand on est jeune, quand on est étudiant, c'est pas rien quand même à sortir. Et vous expliquez pas à la fin du livre combien vous nous permettez d'économiser grâce à votre kit. C'est ça qui m'a manqué, moi, à la fin. J'aurais voulu un retour sur investissement. Oui. Vous êtes à l'école centrale de Lyon. Un retour sur investissement, vous savez ce que ça veut dire?
On explique en effet plein de bons plans dans le livre pour déjà trouver des bourses, parce qu'on pense que les bourses, c'est réservé à un nombre très restreint de personnes. Et en fait, dès qu'on part à l'étranger, il existe des bourses. Pour la mutuelle santé, on propose des solutions. On économise un peu d'argent avec ce livre à 17 euros.
Mais c'est vrai que 17 euros, j'ai trouvé que c'était quand même, c'est une véritable dépense. Donc il faut être sûr que ça nous fasse gagner de l'argent.
Pour le moment, le livre est en fait en pré-vente. Oui. Avec, là, c'est frais de port compris. Et il sera à 15 euros après les préventes.
Est-ce que c'est le début d'une collection de bons plans pour les étudiants et puis ensuite l'entrée dans la vie active? Est-ce que ça vous inspire un modèle de collection?
On aimerait. Pour l'instant, on a écrit seulement celui-ci. On essaye de le promouvoir. Et on réfléchit à en écrire peut-être un second sur un autre sujet.
Sur quoi? Si on réfléchit, c'est qu'on a déjà un peu l'idée quand même.
C'est justement le sujet de la réflexion, on ne sait pas encore.
Bon, et bien j'espère que vous trouverez la bonne idée et qu'on va vous aider aujourd'hui dans cette France bouge. Un grand merci Arthur Press, je rappelle que vous êtes le co-auteur de Ras-le-bol. Vous restez avec nous, il est 13h50 sur Europe 1, mais on va peut-être déjà indiquer à nos auditeurs et auditrices comment ils peuvent venir comme Arthur défendre leur pitch chaque jour.
Oui, venez présenter votre projet, lancez-vous, osez devant le grand patron ou la grande patronne du jour. Il suffit de nous écrire sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Europe 1, il est 13h49.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On est tellement heureux d'être avec vous que parfois on parle plus vite que la fin des jingles. En tout cas, il est 13h52. Notre invité, Bathilde Lorenzetti, qui est la vice-présidente de la Paris La Défense Arena, la plus grande salle d'Europe de spectacle. Alors, à la fin de cette émission, vous en avez l'habitude, depuis la rentrée, on vous parle vie au travail. Aujourd'hui, gros plan sur la distanciation sociale. C'est ce mot très moche, mais très à la mode. Depuis hier, les masques sont obligatoires en entreprise. Nous, ici, on n'a plus le droit de circuler sans masque à nos propres bureaux.
Sauf
en studio, mais parce qu'on a des plexiglas qui nous séparent, donc nous avons une petite tolérance. Mais en tout cas, le télétravail est recommandé, mais il faut aussi respecter les gestes barrières, ce fameux mètre que l'on commence à bien connaître. Pas simple quand on est dans un petit espace. Et je crois qu'Elisabeth, nos équipes et vous avez trouvé une solution.
Et oui, une solution avec vous, Moussaba, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes le responsable des achats chez ITP, c'est une entreprise d'ingénierie. Et chez vous, il y a un boîtier que chacun porte sur soi et qui alerte quand on ne respecte pas la distanciation sociale.
Effectivement, oui. C'est un petit boîtier qui est assez simple d'utilisation. Donc, chaque collaborateur va le porter soit autour du cou ou à la ceinture, ou encore, il y a même des brassards disponibles. Et à chaque fois que le boîtier va entrer en contact avec un autre porteur de boîtier à moins d'un mètre cinquante, sachant que la distance est paramétrable, il y aura une forte vibration et un signal lumineux qui va nous rappeler de mettre cette distance d'un mètre cinquante entre deux personnes.
C'est vraiment la même logique que dans les voitures un peu modernes. Dès qu'on dépasse un petit peu la ligne blanche du milieu, on a bip 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 pour bien revenir sur la route. Là, c'est vraiment cette logique, quoi. Hop, on se remet un peu sur la droite dès que ça sonne.
Voilà, effectivement, c'est on sait très bien, voilà, on est des êtres humains, donc forcément quand on discute, quand on échange, on a naturellement cette tendance à se rapprocher, même si aujourd'hui cette règle nous est rappelée quotidiennement de mettre une distance nécessaire entre deux personnes, on peut parfois passer à côté et se rapprocher involontairement de quelqu'un. Donc voilà, ce boîtier est là pour nous le rappeler. Et ensuite, une fois qu'on a le signal, on se recule un petit peu pour respecter cette distance.
Alors pour utiliser le boîtier, on le porte sur soi, mais il faut le connecter. On le connecte à quoi pour avoir la vibration, le petit bip?
Alors en fait, pour la première utilisation, il suffit de le brancher à une source d'énergie pour l'activer. Et ensuite, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, c'est géré directement par le boîtier. À chaque fois qu'il sera en communication avec un autre boîtier, du coup, il faut qu'il soit aussi de la société Ubudu, il y aura ce signal qui va nous rappeler de reculer.
Et ils ont réagi comment, les salariés, quand vous êtes arrivés un matin en leur disant « ça y est, maintenant, il faut porter, en plus du téléphone, il faut porter un boîtier sur soi ». Comment tu réagis?
Alors déjà, on a une communication en amont pour prévenir que des dispositifs allaient être distribués prochainement. Ensuite, bon, effectivement, quand on n'a pas l'habitude de le mettre autour de soi, les peut-être deux premiers jours, on peut sortir une petite gêne, mais ensuite on l'oublie facilement. Et puis ça reste quand même d'une taille et d'un poids qui est tout à fait acceptable. Donc, dans la grande majorité des cas, les gens jouent au jeu.
Alors malgré tout, ils sont un petit peu tracés tous ces gens, mais surtout, ça vous coûte pas plus cher ce boîtier que de fournir des masques à vos salariés, même si vous êtes dans un petit espace ?
Alors, le risque zéro n'existe pas. Le masque, aujourd'hui, c'est une directive qui est tombée là très récemment. Faut savoir que, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, quand on parlait justement d'un éventuel dispositif pour nous aider à mettre de la distance, les directives du gouvernement n'étaient pas encore tombées, et donc on était plutôt dans une démarche proactive. Donc ça nous permettait, dans un contexte où les gens n'avaient pas de masque justement encore au bureau, d'être rappelé systématiquement de mettre de la distance entre deux personnes. Aujourd'hui, on a ces masques-là qui sont en entreprise, donc c'est un boîtier qui vient renforcer un protocole et des distances et des mesures qui sont déjà en place.
Et respecter ces mesures d'un mètre cinquante. Bathilde Lorenzetti, donc vous êtes la vice-présidente de Paris La Défense Arena, ça peut être pas mal l'idée du boîtier entre chaque spectateur.
Bah, écoutez, votre mot est dubitatif pour ceux qui ne regardent pas Europe 1 en vidéo.
Écoutez, oui, ça pourrait être utile, mais honnêtement, on a déjà mis en place beaucoup de choses. Je pense que ça peut s'entendre peut-être dans un bar. Hein. Je vois les gens à la terrasse d'un café ne respectent pas du tout.
C'est vrai.
Pareil dans le métro. C'est vrai que quand je vois dans les avions, dans le métro, etc., le peu de respect qu'il peut y avoir des utilisateurs. Nous, très honnêtement, notre salle est très grande et ça nous permet déjà d'avoir un siège sur deux. Donc, on a les 1 mètre, effectivement, qui sont respectés, sauf famille commune. Mais ça va faire beaucoup de bips, peut-être, éventuellement.
Oui, ça fait beaucoup.
15 000 personnes, si toutefois on pouvait rouvrir à 15 000.
Si jamais un jour vous y arrivez.
En tout cas,
si déjà on peut réouvrir, et j'espère qu'on nous autorisera très très vite à ouvrir, enfin de plus avoir cette problématique de jauge.
En tout cas, on vous a entendu, Bathilde Lorenzetti, pour que le spectacle reste vivant, il faut que les spectateurs puissent y revenir. Merci à vous, êtes la vice-présidente de Paris La Défense Arena. Merci Moussa Bar, de nous avoir raconté comment ça se passait chez vous avec vos boîtiers pour respecter la distanciation sociale entre les salariés. C'est la fin de votre
ça
émission.
Ça passe chaque jour trop vite, Elisabeth.
C'est trop vite,
Et
comme
on se retrouve,
ça. On se retrouve demain.
Demain, ouais, pour une nouvelle France Bouge. On va parler de quoi, Elisabeth ?
On va parler du bâtiment demain. Figurez-vous qu'il y a plusieurs milliards d'euros prévus pour le plan de relance du bâtiment. Et on a un grand patron avec nous demain.
Oui, ce sera le patron de Saint-Gobain. Et on peut même vous révéler qu'il rentrera tout juste du Liban. Donc avec lui, on aura véritablement une vision aussi de ce qui se passe là-bas. Allez, d'ici là, à demain. Et puis restez sur Europe 1, bien évidemment.
À demain, dans un instant, le journal de Christophe Lamarre. Et juste après, ce sera Christophe Ondelatte.